Alors, bonjour à tous. Je remercie le comité de l'ADES de m'avoir invité à communiquer sur ce sujet qui touche, nous allons le voir ensemble, beaucoup plus de personnes qu'une atteinte très ciblée, qui est le sujet de diagnostiquer et soigner les maladies rares à expression psychiatrique. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une maladie rare ? Eh bien en fait, une maladie rare, dans sa définition, est une pathologie qui touche moins d'une personne sur 4000. Mais en fréquence cumulée, on décrit plus de 7000 maladies rares et un Français sur 20, par exemple, est touché à titre personnel par une maladie rare, qui n'est pas forcément à expression psychiatrique, mais dans cette salle, je ne sais pas combien vous êtes là, peut-être environ 200, on peut considérer que 10 personnes sont porteuses de maladies rares. Donc en fait, on sort du champ de la singularité pour arriver sur un véritable problème de santé publique. Donc les maladies rares touchent, dans 50% des cas, plutôt des enfants, mais peuvent être à révélation tardive chez l'adulte, dans 50% des cas également, et sont à 80% d'origine génétique. En psychiatrie, nous sommes particulièrement concernés par cette problématique, puisque dans les grandes entités que l'on décrit, autisme, déficience intellectuelle, schizophrénie, un très grand nombre de causes aboutissent à une expression clinique qui présente des similarités. Donc en fait, l'autisme, la schizophrénie et même les troubles bipolaires peuvent être considérés comme un ensemble de maladies rares, tant la singularité diagnostique est particulière. Le problème en psychiatrie, c'est que les maladies rares ne sont pratiquement jamais dépistées, et lorsqu'elles le sont, les soins ne tiennent pas forcément compte des particularités du phénotype. Alors en France, je pense qu'on peut se féliciter, et on le fait quand même assez rarement parce qu'on pointe souvent nos fragilités et nos retards, mais là je pense qu'on peut se féliciter d'être des précurseurs au plan international dans le champ des maladies rares. Nous avons été en France le premier pays européen à se doter d'un plan maladies rares. Le premier a été mené entre 2004 et 2008. Le second plan a été mené à partir de 2011. Et en 2017, a été promulgué le troisième plan maladies rares. Le troisième plan maladies rares a remis à plat l'ensemble du fonctionnement et des moyens dédiés aux maladies rares, avec l'organisation en filière et l'organisation et la déclinaison territoriale en centres de référence et en centres de compétences qui offrent un maillage de recours dans le champ des maladies rares. Alors, des maladies rares de ORL, osseuses, cardiologiques, gastro-entérologiques, mais nous sommes concernés par un réseau spécialement dédié à la psychiatrie que l'on va revoir ensemble. Donc ce troisième plan maladies rares, ça a été une avancée importante dans le champ des liens entre la génétique en particulier et la psychiatrie. Et globalement, ça a remis à plat l'ensemble du fonctionnement des centres de référence avec plus de 2000 dossiers, 2000 équipes qui ont postulé pour devenir centres de référence maladies rares. Et on a eu 150 labellisations en France sur des critères cliniques, universitaire et de recherche. Il y a donc aujourd'hui un centre de référence maladies rares qui est spécialement dédié à la psychiatrie avec trois entités, un centre situé à la Pitié-Salpêtrière qui reçoit majoritairement des enfants et des adolescents, un centre situé à l'hôpital Sainte-Anne, qui est principalement animé par le docteur Isabelle Amado et le professeur Krebs, qui reçoit surtout des adultes, et notre centre lyonnais, qui a la particularité, c'est un peu l'histoire de sa constitution, de recevoir des enfants, des adolescents et des adultes. Donc vous voyez que la psychiatrie prend sa place dans le champ des maladies rares, et ça c'est quand même récent, puisque vous savez sans doute que la génétique et la psychiatrie, en dehors du champ de la recherche, mais dans la pratique clinique courante, étaient quand même des spécialités qui se sont longtemps tournées le dos. Et là, aujourd'hui, avec l'entrée de la psychiatrie dans le champ des maladies rares, on a un peu une réconciliation entre ces deux spécialités au chevet du malade. Et donc ça, c'est une avancée importante. Donc, nous étions concernés au titre de l'innovation, mais également au titre d'un diagnostic et d'un traitement pour tous. Et aujourd'hui, ça représente un engagement des centres de référence maladies rares à expression psychiatrique de pouvoir proposer un accès au diagnostic et aux plateformes diagnostiques qui soient le plus exhaustif possible. Nos centres de référence appartiennent à la filière maladies rares déficience qui est animée par Vincent Desportes, qui est neuropédiatre à Lyon, et qui vise à fédérer les ressources, à travailler ensemble autour des anomalies du développement cérébral. Alors voici un aperçu de notre dispositif. On a la volonté d'être complètement co-construit entre une pratique clinique et une pratique de recherche. Ce matin, on a insisté pour dire combien la recherche était importante et non pas une coquetterie, mais véritablement doit être intégrée à la prise en charge clinique pour faire avancer les choses. Donc, entre notre bel hôpital du Vinatier en bas et le centre de neurosciences cognitives, et en particulier l'équipe d'Angela Sirigu que vous avez vue ce matin pour la partie de recherche. Alors, quand on parle génétique, en particulier à des cliniciens, ça a longtemps été l'affaire des chercheurs. C'était la génétique, c'est compliqué, on n'y comprend rien, on n'a jamais rien trouvé. Et puis, de toute façon, c'est mené dans des très grandes populations, c'est des données statistiques. Mais nous, la personne qu'on a à soigner, c'est l'enfant à droite, c'est l'adulte à droite, et on ne voit pas du tout le lien avec la figure de gauche. Eh bien, aujourd'hui, on a complètement dépassé ces clivages. La génétique est sortie du champ strict de la recherche pour avoir un impact, une incidence et pour modifier la trajectoire des patients dans la pratique clinique courante. Les psychiatres se sont depuis très longtemps posé la question de l'origine génétique des troubles mentaux, puisque dès les années 50, un certain nombre de psychiatres prescrivaient des caryotypes standards à leurs patients. Et ces caryotypes revenaient dans la plupart des cas normales, parce qu'en fait, sur un caryotype, on ne voit pas grand-chose. Et on a encore, dans nos dossiers de patients, l'idée d'un bilan génétique normal qui exclut dimension diagnostique. Mais en fait, les choses se sont radicalement accélérées sur les 20 dernières années, puisqu'en 2003, on a séquencé pour la première fois le génome humain dans son entièreté. Ceci a découlé d'une collaboration entre 120 laboratoires de génétique. Ça a pris 10 ans et ça a coûté 10 milliards de dollars. Ceci en 2003. Et aujourd'hui, quand vous vous connectez en 2018, un séquençage, ça coûte 99 euros. On est passé d'un premier séquençage qui a représenté une masse financière et personnelle énorme à la génétique pour tous, accessible en deux clics. Et ça, ça va, que l'on veuille ou non, en psychiatrie, révolutionner nos pratiques, parce que nos patients s'adressent de plus en plus à ce type de plateforme pour avoir des renseignements sur un risque de transmission ou pour mieux connaître leur pathologie. Alors c'est très simple, hein, quand vous vous connectez, vous recevez un kit salivaire que vous renvoyez et vous recevez un génotype qui normalement ne doit pas vous donner d'indications sur des pathologies, mais qui en pratique le fait quand même. Et c'est extrêmement simple. Alors, l'apport de la génétique moléculaire, on voit à quel point tout s'accélère, donc ça a véritablement eu une incidence pour nos patients, puisque je vous rappelle que les premières descriptions de l'autisme de Kanner, c'est 1943, et en 2018, on arrive à proposer des modèles polygéniques extrêmement sophistiqués pour poser un diagnostic d'autisme. Et tout ça, ça n'a pas pris beaucoup de temps finalement. Donc si on considère qu'il s'agit d'avancées véritablement exponentielles, on va avoir à travailler avec la génétique dans les années à venir en pratique clinique courante. De très nombreuses publications, lorsque vous recherchez sur l'outil PubMed, qui est l'outil qui nous sert à trouver des publications scientifiques, juste le mot neurodéveloppement et génétique, on trouve plus de 10 000 publications. Tous les jours, on trouve de nouveaux gènes impliqués dans la schizophrénie ou dans l'autisme. Et tous les jours, on aboutit à une sophistication de plus en plus importante de nos dispositifs. Alors, on peut conceptualiser un petit peu les choses de la manière suivante. Finalement, il y a un gradient génétique dans l'ensemble du champ de la pathologie qui est extrêmement fort pour ce qui relève d'une déficience intellectuelle, puisqu'aujourd'hui, dans environ 50% des cas, on aboutit à un diagnostic précis, génétique, singulier, qui a un sens pour un patient et une famille donnée, jusqu'aux troubles bipolaires pour lesquels le diagnostic génétique reste, dans l'état actuel des connaissances, plus compliqué à mener et fait vraisemblablement intervenir un modèle polygénique avec des modulations environnementales complexes. Mais il s'agit bien là d'un continuum physiopathologique pour lequel on progresse de jour en jour. La déficience intellectuelle, il y a à peine 15 ans, on posait un diagnostic dans 15-20% des cas. Aujourd'hui, en 2018, en allant jusqu'à un séquençage précis de l'ensemble des exons de notre patient, on arrive dans un cas sur deux à poser un diagnostic. Qu'est-ce qu'il en sera de demain ? On ne peut pas encore le savoir aujourd'hui, mais vraisemblablement, ça prendra un impact de plus en plus important, y compris dans la schizophrénie et dans les troubles bipolaires. Ce qu'on peut proposer aujourd'hui comme perspective, ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais comme perspective dans la schizophrénie, c'est un modèle diagnostique génétique à trois niveaux d'approche. Tout d'abord, un examen neurologique. Nos patients présentent des symptômes complexes avec des signes neurologiques mineurs. Je vous laisse apprécier le fait que la plupart de nos patients ne rencontrent jamais de neurologue. Nos patients atteints de schizophrénie ne sont jamais examinés par un neurologue alors qu'ils présentent des dysfonctionnements cérébraux sévères. Une IRM cérébrale, on en a abondamment parlé ce matin, c'est vrai qu'on a parlé d'outils sophistiqués, du IRM 7 Tesla, mais nos patients jeunes psychotiques ne bénéficient jamais d'un examen IRM de base, jamais, dans certains secteurs. Un bilan métabolique, et on peut aussi se poser la question de la réalisation d'un cariotype moléculaire devant des points d'appel, en particulier pédiatriques. Ensuite, on a d'autres propositions diagnostiques qui relèvent plus du champ de la recherche, mais qui, j'espère, pourront passer un jour en pratique courante. Mais j'aimerais qu'on se penche vraiment sur l'approche standard qui pourrait faire en sorte que nos patients puissent bénéficier tous, dans tous les hôpitaux, dans tous les secteurs, d'un bilan minimal, qu'ils puissent rencontrer un neurologue, avoir une IRM cérébrale, avoir un bilan métabolique et avoir un cariotype moléculaire devant chaque point d'appel, en particulier pédiatrique. Souvent, quand nos patients arrivent dans les centres de référence maladies rares, c'est souvent cette ordonnance-là qui les accompagne. Parce que les formes syndromiques de schizophrénie ou de troubles bipolaires ou d'autisme s'accompagnent en général de troubles du comportement sévère pour lesquels on arrive à superposer des couches de neuroleptiques sans chercher à comprendre l'étiologie des symptômes. Alors, c'est vrai que la dysmorphologie de l'adulte, c'est quelque chose de compliqué, et les liens pratiques cliniques entre généticiens et psychiatres, ce sont des liens à construire. En fait, la plupart des généticiens sont des pédiatres et ils n'ont pas forcément l'expérience de la clinique de l'adulte. Les psychiatres tout seuls, je pense qu'ils ne peuvent pas aboutir à ce type de diagnostic et ce type de prise en charge, mais les généticiens seuls ne développeront pas forcément une consultation dédiée à la psychiatrie. Il faut vraiment que nos spécialités se mettent à travailler ensemble au quotidien, organisent des réunions pluridisciplinaires autour de cas complexes pour aboutir à des avancées dans le champ de la psychiatrie de l'adulte. Voyez cette jeune fille. Elle est porteuse d'une microdélétion 22Q11, un syndrome de Digorge, on y reviendra juste après. Vous voyez qu'à gauche, elle a des petites particularités morphologiques que l'on peut repérer. Elle a un nez un peu bulleux, elle a un comblement de la graisse susorbitaire, là, au-dessus de l'œil. Et vous voyez qu'à droite, avec l'âge, avec la modulation de l'environnement, eh bien, les éléments dysmorphologiques sont pas clairs du tout. Donc, c'est important qu'on puisse tricoter ce lien entre généticien et psychiatre pour aboutir à ce type de diagnostic. Et il est important que l'on puisse nouer une relation de confiance entre nous. Un exemple parmi d'autres de diagnostic de maladies rares génétiques que l'on pose fréquemment en psychiatrie, la microdélétion 22q11, c'est une naissance sur 2000 et c'est même probablement encore sous-estimé. Ça veut dire qu'on sort presque du champ des maladies rares qui, je vous le rappelle, concernent une personne sur 4000. Ces patients développent des symptômes psychotiques dans presque un cas sur deux, peuvent développer des troubles du spectre autistique et représentent 1 à 2% des schizophrénies. Ça veut dire que dans la pratique courante d'un psychiatre, parmi 50 patients atteints de schizophrénie, l'un d'entre eux est porteur de cet unique diagnostic. Et ça représente 5% des schizophrénies précoces de l'enfant. L'intérêt de poser ce type de diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, on connaît la séquence neurodéveloppementale qui aboutit à l'émergence des symptômes psychotiques. On sait qu'un jeune qui a un diagnostic de délétion 22, dans 50% des cas, il va développer des symptômes qui s'apparentent à la schizophrénie. On sait aussi que ces symptômes-là sont très en lien avec les troubles de la cognition sociale, la difficulté à s'ajuster de manière flexible à l'autre, la difficulté à reconnaître les intentions de l'autre. Et on sait aussi que ces symptômes sont très associés à l'anxiété. Eh bien, une fois qu'on a en tête ce diagnostic, chez un jeune qui est anxieux et qui reconnaît moins bien les autres et qui n'interagit pas correctement, eh bien le fait de prescrire un traitement pour prendre en charge cette anxiété et de rééduquer spécifiquement les habiletés sociales, eh bien on évite l'évolution vers des symptômes psychotiques sévères. Alors c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment parce que dans notre spécialité, on n'a pas beaucoup de modèles validés comme ça au plan neurodéveloppemental où on peut intervenir en amont de l'émergence des troubles. Alors, les troubles du neurodéveloppement sont plus généralement un enjeu de santé publique. Vous savez que le quatrième plan autisme revoit un peu les choses et élargit à l'ensemble du champ du neurodéveloppement. Ça nous concerne directement en psychiatrie. Les états généraux de la déficience intellectuelle et des troubles du neurodéveloppement qui a eu lieu en janvier dernier a promulgué en quelque sorte un certain nombre de recommandations qui peuvent tout à fait concerner nos soins et notre offre de soins en psychiatrie. Tout d'abord, mieux repérer pour intervenir précocement. Donc, on entendait ce matin l'intérêt de développer des actions de soins spécifiquement centrées sur les patients qui présentent une psychose débutante. Eh bien, peut-être que chez ces patients, le fait d'avoir à l'idée d'avoir un certain nombre d'examens systématiques, ça doit faire partie aussi de l'avenir de la psychiatrie en France. Accéder à l'évaluation des compétences et des fragilités, nos patients ne sont pas assez évalués aujourd'hui. Permettre l'accès au diagnostic étiologique. Aujourd'hui, on arrive à porter un diagnostic dans 30% des cas de troubles du spectre autistique, dans 50% des déficiences intellectuelles, dans 15% des schizophrénies. Il faut travailler en partenariat avec des généticiens pour nos patients, améliorer l'accès au diagnostic, développer les compétences. Ça, c'est le champ de la réhabilitation qui, je crois, sera assez largement abordé durant ces deux jours, accompagner ces personnes. Et l'idée, c'est peut-être de créer des centres ressources qui seraient spécialement déployés dans la direction des troubles du neurodéveloppement. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Concernant les troubles du neurodéveloppement qui s'accompagnent de comportements défis, c'est un véritable challenge en psychiatrie de pouvoir les prendre en charge. On parle en général de ce qu'on appelle de manière plus simple des patients déficitaires avec troubles du comportement violent. Ce type de trouble du comportement, c'est 10% des personnes avec déficience intellectuelle, la déficience intellectuelle touchant 6% de la population générale. Et dans 80% des cas, ces patients qui présentent une déficience intellectuelle avec des troubles du comportement, eh bien dans 80% des cas, il s'agit d'une forme syndromique. Et de manière générale, elle n'est jamais diagnostiquée. Sauf que prendre en charge un patient qui a un diagnostic de microdélétion 22Q11, comme on vient de voir tout à l'heure, ça n'est pas la même chose que les soins qui peuvent être apportés à un patient qui a un autre diagnostic génétique. Trop souvent en psychiatrie, la réponse à ce type de trouble du comportement, c'est la prescription de neuroleptiques. Aucun diagnostic n'est posé et aucune évaluation fine n'est proposée. Les troubles du comportement des filles, dans les syndromes rares, l'idée serait de pouvoir, au niveau régional, un peu partout, développer des prises en charge expertales, pluridisciplinaires, avec un accès simple et direct aux plateformes diagnostiques génétiques et s'accompagner d'une expertise neurologique. Ces patients peuvent parfois saturer les lieux d'hospitalisation, hein, puisque ce sont des patients qui restent souvent orphelins de solutions, en particulier dans le secteur médico-social, et qui peuvent rester de très nombreux mois, voire des années, hospitalisés. Eh bien, l'idée serait de pouvoir développer des équipes mobiles qui interviennent dans les familles, qui interviennent dans les structures médico-sociales et qui soient disponibles 7 jours sur 7. Parce qu'un patient qui présente une déficience avec d'importants troubles du comportement et qui a recours à la psychiatrie, il ne choisit pas du lundi au vendredi pour s'agiter. Il peut y avoir aussi des problèmes le week-end. Donc il faut véritablement, si on veut éviter la saturation des lits d'hospitalisation, pouvoir peut-être essayer de penser des dispositifs qui soient mobiles et qui interviennent auprès des personnes. Mettre bien sûr l'accent sur l'aide aux familles et mettre en place le plus précocement possible des réunions de concertation pluridisciplinaire. Un patient qui présente une forme sévère de trouble du spectre autistique avec des problèmes comportementaux, eh bien très vite, il faut que des acteurs experto de la prise en charge de ce type de maladie rare se réunissent, psychiatres, généticiens, neurologues, spécialistes du sommeil également, pour prendre une décision de médecine personnalisée pour ce type de patient. Et enfin, la difficulté à adapter le projet de vie également dans les maladies rares ou dans les formes sévères des troubles du neurodéveloppement, eh bien, il faudrait que nos patients puissent aboutir à une évaluation standardisée et à une stimulation précise en fonction de leurs compétences et de leurs fragilités au plan cognitif, mais aussi au plan des évaluations, des habiletés sociales et de la communication. Et pour cela, nous venons d'obtenir, en collaboration avec le CHU de Dijon, le CHU de Saint-Étienne et l'hôpital Sainte-Anne, un PHRC qui sera dédié donc à la stimulation cognitive chez les personnes adultes avec déficience intellectuelle. En conclusion, c'est peut-être un exemple de ce qui pourrait se structurer autour de la problématique complexe des troubles du neurodéveloppement. Il s'agit de la Fédération interhospitalière du neurodéveloppement. C'est le projet FIND. C'est un projet que nous sommes en train d'élaborer au centre hospitalier Le Vinatier en collaboration avec nos collègues des hospices civils de Lyon. Et il va s'agir de réunir dans le champ clinique, dans le champ de la recherche, mais également de l'enseignement, tous les acteurs qui sont concernés par les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire les neuropédiatres, les neurologues, les pédopsychiatres, les psychiatres et les centres de référence maladies rares, ainsi que les plateformes de génétique, pour que tous ensemble, on puisse cheminer au plan clinique et de la recherche pour améliorer ces diagnostics complexes. Donc le projet FIND va réunir le centre labellisé des anomalies du développement, qui est le service de génétique des hospices civils de Lyon, une plateforme d'évaluation des troubles complexes pédopsychiatriques du neurodéveloppement, le centre de référence déficience intellectuelle, le centre de référence donc maladies rares à expression psychiatrique, le centre ressources réhabilitation et le centre ressources autisme. Et on va vraiment essayer de travailler ensemble cette interconnexion transdisciplinaire pour améliorer la qualité du diagnostic, de l'évaluation et des soins personnalisés. marche plus. Excusez-moi, un petit. Alors ça, c'est un petit peu le rêve, le futur, on espère. Qu'on puisse partir d'un diagnostic clinique, proposer des évaluations au plan moléculaire, au plan électrophysiologique, au plan neuroradiologique, comme on a vu largement ce matin, pour aboutir à l'élaboration, pourquoi pas, de modèles animaux, mais aussi pouvoir déterminer des cibles extrêmement précises pour développer une médecine personnalisée. Et pour qu'un jour, on l'espère, la psychiatrie, ou plus généralement les troubles du neurodéveloppement, soit accessible à un traitement qui ne soit plus uniquement un traitement sédatif ou un traitement non spécifique, mais à quelque chose d'extrêmement fin, un peu à l'instar de ce qui s'est mis en place en cancérologie. Alors, les troubles du neurodéveloppement sont singulièrement complexes, hein. C'est peut-être un rêve qui nous sera difficilement accessible, mais néanmoins, je crois que tous ensemble, en systématisant le recours au diagnostic et à l'évaluation, c'est en tout cas un pas de plus vers cette médecine personnalisée. Enfin, notre centre de référence promulgue très régulièrement donc une lettre qui vous informe des différents plans cliniques et de recherche. Et nous avons en particulier mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont accessibles à toute la France, quel que soit votre lieu d'exercice, puisque nous utilisons une plateforme de connexion Internet. Les deux premières réunions de concertation pluridisciplinaire ont permis de fédérer plus de 15 équipes sur tout le territoire français et d'avoir une approche pluriprofessionnelle des cas complexes, donc psychiatres, neurologues, généticiens, neuropsychologues. Et donc si vous êtes concerné par ce type de prise en charge, eh bien, il est très simple de vous connecter à ce RCP par mail et de venir discuter avec nous, poser vos difficultés, mais aussi nous donner vos idées pour l'évaluation et la prise en charge de ces cas difficiles. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait passionnante. La génétique a beaucoup à apporter à la psychiatrie. Je pense qu'on est vraiment tous